Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Salut à toutes, salut à tous, bonsoir, bienvenue dans ce 24e numéro du Player Club. Nous sommes le lundi 2 mars 2015. Ce soir, nous allons parler du jeu Evolve avec Stoon.
Bonsoir à tous.
Alors Stoon, tu nous viens évidemment de Gamekult, tu écris pour ce site français généraliste en termes de jeux vidéo de référence, et tu as notamment fait le test d'Evolve.
Ouais, c'est ça.
On en parlera dans quelques instants. Avec nous aussi Fox. Fox, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Rédac chef d'artofgaming.fr, tu interviens aussi dans les tauliers une fois par mois.
C'est ça.
Et on a le plaisir de te recevoir à nouveau dans le Player Club ce soir. Enfin, ton camarade d'artofgaming.fr est aussi ici. Zelfir, bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Tu étais déjà venu à l'occasion du Player Club sur Rétrospective Halo, on s'en rappelle. Voilà, et donc ce soir, tu vas aussi parler avec nous d'Evolve, parce que comme Fox et comme Stoon, tu as mis un nombre incroyable d'heures déjà dans ce jeu qui est pourtant sorti le 10 février.
Ah, faut bien s'occuper.
Alors, le jeu, ses qualités, ses défauts, la comparaison par rapport à Left 4 Dead, mais aussi la politique de DLC et de l'éditeur de 2K de manière générale, on en parle tout de suite dans le Player Club. Et donc, attaquons un petit peu la question Evolve par le début, de manière très simple. Il faut replacer un petit peu le contexte pour les auditeurs qui n'ont pas joué au jeu, qui ne s'y sont pas beaucoup intéressés, même si pour le coup, il y a eu une couverture assez importante, aussi bien de la part des différents constructeurs que de la part de 2K, même de la presse autour d'Evolve. Qu'est-ce que c'est qu'Evolve et pourquoi il y a un tel intérêt derrière ce jeu? Je vais prendre Fox. Fox, je sais que tu as un intérêt, tu suis le jeu depuis un bon moment. Qu'est-ce que c'est qu'Evolve?
Evolve, c'est le nouveau jeu de Turtle Rock Studios, donc les heureux parents de Left 4 Dead. Oui. C'est un FPS coopératif qui se joue différemment de Left 4 Dead, évidemment, parce que c'est un jeu qui se joue à 4 contre un joueur incarné soit par une IA, soit par un autre joueur. Donc c'est du 4v1, 4 chasseurs contre un monstre. Le but du jeu est assez sommaire, hein, c'est les 4 chasseurs sont droppés sur une carte. La taille peut varier avec une topographie relativement accidentée, avec des décors de jungle, des décors très arides, de rochers, des sous-sols, ce genre de choses. Et le but est pour les chasseurs de tuer le monstre le plus rapidement possible, parce que les matchs sont minutés, alors en version de base c'est environ 20 minutes.
Ouais.
Et pour le monstre, le but est de soit tuer les chasseurs, soit d'atteindre le stade 3 de son évolution, donc il doit se nourrir pour ça. Il doit se nourrir de la faune locale qui est disposée dans chaque map à différents endroits. Il y a différents monstres, évidemment, du plus petit au plus gros. Et ensuite, s'il atteint le stade 3, il doit encore, évidemment, soit il tue les chasseurs, soit il détruit le relais. Le relais d'énergie qui signifie pour lui la victoire de la partie, parce qu'il faut protéger le relais quand le monstre est au stade 3.
Donc voilà, la mécanique d'évolution du monstre, c'est ce qui donne le titre au jeu, tout simplement. Evolve évoluer. Derrière ça, les différents personnages qu'on joue sont sur plusieurs classes. On doit en prendre un de chaque.
Alors il y a 4 classes obligatoires. Il y a donc le trappeur qui va être chargé de débusquer le monstre et de l'enfermer dans un dôme. Ça, c'est sa capacité de classe personnelle. Donc tous les trappeurs ont un dôme. Ensuite, il y a l'assaut. L'assaut, lui, son nom, c'est simple, hein, c'est il va au feu et il bourrine. Sa capacité personnelle, c'est d'avoir un bouclier qui le rend totalement invincible pendant une courte durée, de quelques secondes. Hein. Ouais. Ensuite, il y a un médic. Donc lui, alors les médics varient un petit peu aussi, mais les médics ont tous un soin de zone, permet de soigner les potes dans une petite zone autour d'eux.
Ouais.
Qui, eux, sont chargés de soit de soigner en continu avec certains, soit ils ont une capacité, par exemple, qui permet de faire revivre ceux qui sont morts. Et la dernière classe, c'est le support ou le soutien, qui lui va prodiguer différents soutiens de jeu. En fait, il y en a un qui va donner par exemple du bouclier à l'équipe. Il y en a un qui va permettre de traquer le monstre avec un nuage toxique. Un autre qui peut envoyer sa tête par exemple pour traquer aussi le monstre.
Ouais.
Et eux, leur capacité de classe, c'est un champ d'invisibilité qui se dispose autour d'eux pendant quelques secondes, qui permet de rendre toute l'équipe qui rentre dans la zone indétectable, y compris à la respiration du monstre qui, lui, peut utiliser une espèce de sonar olfactif pour pister les chasseurs dans une certaine zone du jeu.
D'accord, donc il y a une espèce de d'équilibre qui est donné entre le gros monstre et les quatre chasseurs.
C'est
en tout cas ce qui est
clairement c'est un jeu de chasse, mais c'est pas une simple battue puisque le monstre peut se défendre, il a des pouvoirs pour se défendre
Contrairement à Monster Hunter dont on faisait la rétrospective la semaine dernière dans cette émission, là on joue le monstre, donc il a aussi vraiment des plus de chances de se défendre, c'est un peu plus fair play pour lui comparé justement à Monster Hunter qui est bon à la troisième personne, pas à la première personne, et dans un setting totalement différent, mais là où généralement il fait face le monstre déjà il est uniquement contrôlé par l'IA et en plus il fait face à des joueurs complètement armés jusqu'aux dents. On comprend bien en gros comment fonctionne le gameplay de manière générale. Reste que Evolve, donc on en parle depuis un moment. Stoon, toi qui travailles pour Gamekult, donc un gros site de jeux vidéo, dis-moi, ça fait plus d'un an que le jeu est annoncé. Pourquoi est-ce qu'on en a autant parlé durant toute cette année jusqu'à sa sortie? Qu'est-ce qui fait qu'Evolve est un jeu intéressant?
Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un jeu intéressant? Je pense que ça vient des premières présentations que Touquet a fait du jeu. Mm-hmm. Où en fait, il y avait une grande partie toute la presse, comme d'habitude, était invitée. Et ça vient aussi, surtout, je pense, de la volonté de Touquet d'avoir son FPS multi. Parce que Touquet a beaucoup de gros titres. Enfin, voilà, faut savoir que Touquet, c'est Tech2, donc ils ont GTA. Ouais. Sous Touquet, ils ont NBA Touquet. Enfin, voilà, ils ont un gros pool de jeux, ils ont BioShock, etc. Mais ils n'ont pas leur FPS multi. Et malheureusement, c'est ce que tous les éditeurs veulent avoir. Activision a son Call of Duty. Ouais, ils ont Borderlands, mais ils ont pas la notion. Enfin, tu vois, Activision
a son. Tout à fait. C'est du coop, mais pas multi. Ouais.
C'est ça. Activision a son code. Electronic Arts son Battlefield. Ubisoft va avoir bientôt son Rainbow Six. Et du coup, pour Touquet, il lui fallait son FPS multijoueur. Et donc, ils ont pris. Je sais pas dans quelles circonstances ça s'est déroulé. Si c'est Touquet qui a abordé Turtle Rock, ou si c'est Turtle Rock qui est venu les voir avec un prototype. Mm-hmm. Mais Turtle Rock est arrivé avec son proto, 4 chasseurs, un monstre, et effectivement, ça fonctionnait très bien. Enfin, les premières parties. T'interroges tous les journalistes et tous les gens qu'ont joué, tu vois, les premières previews. Mmh. Tout le monde est revenu avec le sourire jusqu'aux oreilles en disant j'ai envie d'y jouer. Donc nous, chez GK, il y avait eu le 3, pas 2014, mais si, c'était pas le 3 2014, je sais plus, il y avait une presse avant. Ouais, il y avait une presse, une présentation avant où ils avaient pu toucher à Evolve. Mm-hmm. Ou alors c'était un event Touquet, je crois. Et moi, je l'avais vu après en mai, dans un event pré-E3. Donc, c'était à Santa Monica. C'était présenté en même temps que Civilization. Donc, ils présentaient leurs deux gros jeux de l'année. Et pareil, moi c'était ma première prise en main et je suis ressorti. Pareil, j'ai écrit une preview ultra positive parce que j'étais vraiment emballé par le concept du jeu.
Donc purement effectivement sur le concept, il y a un certain attrait sur le fait que ce soit Turtle Rock aussi, mine de rien, que ce soit les personnes qui aient bossé sur le premier Left 4 Dead attirer l'attention. Je veux dire, le premier Left 4 Dead a eu une excellente presse. Ça a joué un rôle à ton avis?
Ouais, c'est clair que l'aura de Turtle Rock a aussi joué dans l'histoire, parce que c'est Left 4 Dead, c'est ça, t'as des gros développeurs qui sont derrière, enfin c'est comme quand Valve annonce un jeu, tu vois, tout le monde est là, a déjà la bave, tu vois, au coin des babines. Et du coup, c'était la même chose, donc on était tous aux aguets, voilà, on a testé le jeu, on a fait ok, ça défonce, ça fonctionne, enfin on voyait tout, le jeu se comprend très vite, en fait, c'est ça aussi, la mécanique est très simple, c'est voilà, 4 chasseurs, un monstre, donc tu vois tout de suite, en plus, 4 classes qui sont complètement, complètement différentes, et complémentaires en plus, donc tu vois tout de suite les mécaniques de coopération qui vont pouvoir se développer derrière.
Et comme tous les jeux qui se basent sur une mécanique purement multijoueur et purement de fun à plusieurs, soit ça marche, soit et on va y rester vraiment des heures, c'est le phénomène Left 4 Dead et Left 4 Dead 2 avec seulement 4 ou 5 campagnes, mais les gens accumulent des centaines d'heures dessus, soit il y a la machine grippe d'une manière ou d'une autre, et du coup, les gens abandonnent assez vite le jeu. La question que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est que l'attrait principal, on l'a bien compris dans le concept d'Evolve, c'est le multijoueur. Pour autant, il y a aussi un mode campagne, Zelfir. Il consiste en quoi? Il est intéressant? Qu'est-ce qui se passe dans ce mode campagne?
Déjà, le mode campagne, c'est un petit peu le moyen de pouvoir jouer au plaisir multi, mais en solo, donc entièrement entouré par des bots. donc l'intelligence artificielle du jeu, qui permet effectivement de se faire les mêmes modes de chasse à quatre chasseurs contre un monstre, mais également de jouer à des modes spécifiques, où là on essaye un petit peu de varier un peu les plaisirs, pouvoir se dire des captures d'œufs. Donc en gros, c'est le monstre a pondu des œufs aux quatre coins de la map, et le but va être pour les chasseurs de faire éclater ses œufs avant que le monstre, lui, ait eu le temps d'aller zigouiller chacun des chasseurs un par un.
Qui est une sorte de capture the point, mais dans un seul sens, c'est-à-dire qu'une fois que l'œuf est zigouillé, il est zigouillé.
Voilà. Sachant que le monstre, en plus, lui, a une petite mécanique, une petite subtilité, c'est que lui, s'il arrive à un œuf avant les chasseurs, il peut faire éclore l'œuf de façon à ce que le monstre qui est en gestation dans l'œuf puisse sortir. Donc il se retrouve avec un petit camarade à lui pour un petit peu en renfort derrière.
Alors notre ami Rouge Noir Blanc nous dit au hashtag le Player Club, et n'hésitez pas à réagir au hashtag le Player Club. Attention amalgame, le mode campagne est dispo à la fois en multi online et en solo contre des IA. Donc voilà, le mode campagne, il n'est pas exclusivement en solo.
C'est,
on l'aura bien compris.
C'est le mode évacuation et il y a une campagne solo. D'accord. Qu'on peut faire entièrement avec les bots. On peut jouer à tout avec les bots, hein, tous les
modes. C'est intéressant
en solo et en public.
La plupart du temps, c'est pas le cas, mais je pose juste la question comme
ça. Left 4 Dead, on va en reparler, mais Left 4 Dead avec les bots, c'était rapidement chiant. Du moins, problème, il y avait des gros problèmes d'IA, encore plus sur Left 4 Dead 2.
Surtout quand tu joues
en
hard,
Rochelle,
en fait.
Hein, le bot Rochelle qui était assez particulier. l'IA assistante sur Evolve est pas mal, mais elle nécessite essentiellement d'avoir le joueur qui lead un petit peu la partie. Donc ils vont vraiment être là en support, mais le tracker bot va pas forcément faire son travail. Si le tracker bot, par exemple, puisqu'on peut paramétrer les personnages qu'on va choisir, le premier tracker, c'est Maggie. Elle a un chien qui s'appelle Daisy, qui flaire la piste du monstre et qui la suit. Donc là, par contre, ben on va suivre Daisy et le pisteur va un peu faire son travail si on le joue pas. Par contre, un personnage comme Abe ou Griffin, qui sont dépendants du travail du trappeur, hein, c'est-à-dire poser des pièges ou chasser le monstre pour arriver à le marquer avec son pistolet. Mmh. Là, par contre, le bot, si on n'est pas avec lui, il va rester assez statique. C'est un petit peu embêtant. Par contre, au niveau de l'IA du monstre, les monstres sont quand même assez intelligents. Ils vont aller moins à la confrontation qu'un joueur humain, ça c'est sûr, parce que eux, leur but est vraiment d'évoluer et de jouer extrêmement safe. Mais pour en avoir affronté pas mal, parce que quand ça se passe dans tous les jeux multi, quand il manque un joueur, le bot va prendre sa place. On a pris des belles roustes contre quelques monstres IA qui étaient quand même, on va dire, assez compétents. Donc là, ça peut être intéressant pour apprendre à combattre les monstres, s'entraîner sur les différents types de monstres.
D'accord. Je vais poser la question que tout le monde se pose à cette étape-là, parce que je pense que parmi notre auditoire, il y a énormément de monde qui a joué à Left 4 Dead. Est-ce que c'est aussi bien ? Est-ce que ça suit la légende de Left 4 Dead ou pas ? Mon intuition est sur le nom, mais je vais faire parler un peu tout le monde, à commencer par Stone. Par rapport à Left 4 Dead, comment tu poses Evolve ?
Je vais dire non. Je vais être très très direct. Pour avoir joué énormément et au niveau de difficulté maximum à Left 4 Dead en coop avec des potes en LAN, enfin voilà les meilleures conditions de jeu, on retrouve pas ce qui fait le sel de Left 4 Dead, à savoir une progression qui augmente au fur et à mesure des parties. C'est pour moi le gros problème d'Evolve, c'est que la courbe de progression du joueur est très limitée et que au bout de 3-4 heures, on va dire pour les plus doués et une grosse dizaine pour les moins skillés entre guillemets, on a fait le tour des mécaniques de jeu et il y a plus vraiment de challenge, tu vois, même si t'as des mecs en face qui jouent très bien, ce sera toujours le même schéma de jeu en fait.
D'accord, c'est un peu trop simpliste dans les différentes possibilités au final.
C'est ça, ce qui faisait l'attrait de Left 4 Dead en versus, hein, on va parler du versus vu que c'est à ça qu'on le compare. Le versus de Left 4 Dead, c'est que quand tu joues du côté des infectés, c'est que des pièges en fait que tu tends, tu vois, c'est des embuscades. Tu te places au death trap et
c'est de ralentir finalement.
Voilà, c'est ça, c'est de ralentir au maximum et quand t'arrives à un de ces fameux pièges mortels, chacun a son rôle et même en fait même un infecté qui paraît pas très important va forcément avoir son rôle et là dans Evolve il y a aussi le fait qu'il y ait qu'un seul monstre qui aussi aplatit totalement la notion de teamplay. Ça se perd de ce côté-là en fait. T'as pas vraiment cette notion de progression, enfin t'apprends pas grand chose en fait, c'est toujours vraiment les mêmes mécaniques pour moi dans Evolve.
D'accord. Zelfir.
Je vais avoir un avis un petit peu différent de Stoom là-dessus. Effectivement, pour moi, Left 4 Dead, ça garde quand même l'attrait principal quand on va vraiment pouvoir jouer à 4 contre 4. C'est vraiment ce qui faisait la force de Left 4 Dead. Evolve l'a pas, cette partie-là, vu que de toute façon, le gameplay asymétrique fait qu'il y en aura vraiment que 4 qui vont jouer ensemble contre un mec tout seul.
Et excuse-moi, je t'interromps là-dessus parce que j'y pense, mais le mec tout seul, il finit pas par se faire chier à un moment, ou est-ce que c'est plutôt quand même intéressant?
Ça, clairement, ça va dépendre de la partie que tu vas faire.
D'accord, si ça dépend beaucoup des joueurs.
Voilà, si jamais tu vas te retrouver avec des chasseurs qui vont arriver à te traquer un petit peu, clairement, tu vas avoir du boulot, tu vas devoir soit commencer à essayer de fuir, tu vas devoir te cacher, tendre potentiellement des fausses pistes, à essayer de mettre des traces, revenir sur ses pas. Enfin, tu vas avoir du boulot là où effectivement, si les chasseurs te perdent dès le départ et qu'ils te retrouvent pas, tu passes à peu près une partie peinard jusqu'à temps d'arriver au stade 3, et là tu vas essayer effectivement de faire la loi. Donc de ce côté-là, ça va vraiment, côté monstre, ça dépend vraiment les parties que tu vas avoir. Il y a des moments où ça peut vraiment être monotone, et des moments où tu vas avoir mais vraiment le palpitant à 200 qui va pas arrêter de battre, parce que tu sais que t'as les gars qui sont derrière toi qui te traquent. Quoi.
Je ne suis qu'en forme 1, voilà. Mon dieu, vite bon, bref.
Mais là où moi je trouve quand même malgré tout que Evolve pêche un peu, c'est notamment sur la coopération des différentes classes. Je trouve qu'il manque la partie vraiment poser des pièges. Il y a des moments où le monstre va se mettre à courir. Si jamais tu n'arrives pas à le rattraper, tu vas passer ta partie à lui cavaler derrière. Et je trouve qu'il manque une petite partie où tu pourrais tendre vraiment des pièges vraiment handicapants loin de la map en te disant on va le chasser, on va essayer de trouver là où il est. Et après essayer de pouvoir se dire il y a moyen de le rattraper, pas aisément, mais en tout cas d'aider à ça. Et ça là-dessus, je trouve que il y a encore 2-3 petites choses que Turtle Rock pourrait revoir sur ses personnages pour vraiment avoir une coopération très poussée au niveau de la chasse.
Peut-être que des maps plus petites du coup pourraient permettre ça.
Peut-être bien. En tout cas, le côté du quand le monstre est chopé, de pouvoir avoir vraiment une espèce d'osmose, et puis vraiment que les pouvoirs vont arriver un petit peu à se combiner, arriver à faire des choses, là-dessus, il n'y a pas de problème, la mécanique, elle est rodée. C'est vraiment, moi, sur l'aspect chasse pure et dure, où là, je trouve clairement que t'es vraiment dépendant du tracker, et si jamais le monstre t'arrive pas à te rapprocher, bon, c'est une espèce de béni-hill pendant une demi-heure, quoi.
Mais on voit l'importance, l'emphase qu'il y a sur le chasseur en particulier. Fox, de ton côté, la comparaison avec Left 4 Dead, comment elle se passe pour toi?
J'ai du mal à le comparer avec Left 4 Dead. On a énormément joué aussi en multi à Left et on a beaucoup joué en campagne. Ce que j'aime beaucoup Evolve pour justement la représentation de la chasse telle qu'elle se passe généralement, c'est-à-dire que les trois trackers, c'est un peu la classe que je joue le plus parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Tracker et monstre, c'est vraiment deux postes qui sont très intéressants. En tant que tracker, comme le disait Zelfir, ça manque de pièges. Les trois représentations des chasseurs sont assez intéressantes parce qu'on a Maggie qui est le tracker classique avec son chien, donc chasse à court, suivre les pistes et tracer derrière le monstre. On a Griffin qui va mettre des trackers sonores à différents endroits de la map, donc quand on se déplace, on peut planter dans le sol 5 trackers sonores. Pour l'instant, la distance à peu près 45 mètres autour du traceur en hauteur, c'est un cylindre en fait.
Il y a vraiment une mesure en mètres dans le jeu?
Oui, il y a une mesure de distance. Moi, je dis mètre, mais c'est une mesure unitaire on a une mesure unitaire, oui, pour savoir à peu près à combien on est et à combien on est situé des copains, si c'est très important. Savoir que 250 mètres, c'est loin, mais 100 mètres, ça se fait en quelques coups de boost et en courant un peu. Donc, c'est très important d'avoir cette unité de distance. Après, par exemple, Abe, il n'a clairement pas d'armes pour pouvoir poser des pièges. Et c'est vrai que ce serait intéressant, en tant que tracker, de pouvoir ne serait-ce que mettre des pièges au niveau du niveau. Il y a plein de niveaux très intéressants. Ma map préférée, c'est Volière. Il y a de quoi faire des cages à filets, des tas de trucs qu'on pourrait retrouver dans une track classique, pour ne serait-ce que pour ralentir le monstre ou déclencher des alarmes, qu'on ne trouve pas. Après, en tant que monstre, moi, qui est vraiment le truc que je préfère, même si je le joue pas beaucoup en ce moment, parce qu'on joue beaucoup en équipe, monstre, c'est quelque chose que j'avais pas retrouvé depuis Gears of War. Donc c'est un truc qui date quand même. C'est cette adrénaline, justement, d'être en infériorité numérique.
D'être face à un énorme truc.
Ouais, t'es face à des mecs qui veulent ta peau. Clairement, quand t'es au stade 1, t'es en infériorité de puissance, en infériorité numérique évidemment, mais tu te fais dérouler. Tu démarres, t'as pas de bouclier, t'as une barre de vie qui descend assez vite, tu es faible, et tes dégâts vont augmenter au mesure de ton évolution. Le but du jeu, c'est d'être discret pour pas te faire choper. Mais en même temps, les chasseurs, ils vont être derrière toi parce que tu vas obligatoirement laisser des traces après un bond ou un truc comme ça. Tu vas malheureusement faire du bruit, tu vas attirer des oiseaux en te nourrissant, parce que quand tu te nourris, tu as des oiseaux qui vivent des charognards qui viennent du ciel, et donc du coup, ça donne des indices aux chasseurs. Et t'as aussi des nuées d'oiseaux un peu partout sur la map. Si tu passes à côté en courant comme un débile, tu vas les alerter, et là par contre, les chasseurs vont vite voir qu'à 200 mètres, il y a des oiseaux qui ont sonné, et ils savent exactement dans quelle zone tu vas être. Donc ils vont pouvoir se dispatcher autour de toi, créer des pièges, et donc t'enfermer. Donc c'est ce côté d'adrénaline d'être chassé, et en même temps de pouvoir chasser aussi, parce que dès que tu passes stade 2, tu peux commencer à faire des petits pièges. Par exemple, le Goliath peut lancer un rocher assez loin pour pouvoir faire peur à des oiseaux et partir dans l'autre sens. Il y a plein de petites finesses, et dans les finesses de gameplay que j'apprécie aussi au niveau des chasseurs, c'est un truc dont on a assez peu parlé, mais il y a des synergies entre les classes, d'accord, mais il y a aussi des synergies entre les persos de différentes classes.
Ah oui, parce que voilà, on explique, on peut choisir différents, enfin ça a déjà été un petit peu évoqué plus tôt, mais voilà, il y a 12 personnages qui sont divisés entre 4 classes.
3 par classe, 3
exactement.
Par classe pour l'instant.
Et alors les DLC payants apporteront notamment de nouveaux personnages et de nouveaux monstres. Si
voilà, il y aura de nouveaux monstres qui vont sortir, il va y avoir normalement 4 nouveaux chasseurs. Pour ceux qui ont la Monster Race, il y aurait normalement 2 chasseurs uniques dont on n'a pas du tout entendu parler pour l'instant. Hein. On n'a rien vu de ce qui va être annoncé, mis à part le 4e monstre, le Behemoth.
Et pourtant, ils commencent déjà à le vendre, mais ça on y reviendra après.
Ouais.
On en parlera tout à l'heure. Mais les synergies entre les persos, ce qui est super important, c'est un truc que je commence à voir exploité à haut niveau, parce que là on est en train d'arriver au niveau 40 tous autant qu'on est. Dans les parties qui sont, donc le matchmaking va nous mettre évidemment avec des gens à peu près du même niveau que nous. C'est que je commence à voir des synergies entre les classes. Par exemple, Bucket est donc un personnage de support, il peut balancer sa tête, donc un UAV, et sa tête va avec sa caméra voir un peu ce qui se passe sur la map, il va se déplacer, et s'il voit le monstre, il se colle un peu près de lui, et il va pouvoir le verrouiller.
Okay.
Du coup, on a un indice radar du monstre pendant quelques secondes, qui est plutôt pratique. Ça peut totalement compenser, par exemple, les travaux de Griffin, qui lui va aller de l'autre côté de la map placer des senseurs. Et donc il va verrouiller une partie de la map au niveau sonore pendant que Bucket lui va aller jeter un œil de l'autre côté. Du coup il y a un dispatch de repérage et tu peux couvrir plus de la moitié de la map facilement en quelques secondes dès le début de la partie.
Donc l'idée est un peu de sélectionner son cast d'équipe, les différents personnages.
Ah, il y a une
composition
d'équipe à mon avis.
Comme
à mon sens, il y a vraiment ça.
Comme on constituerait, comment dire, tout un armement, plus le casque, plus l'équipement, plus les potions pour un RPG, pour un personnage. En fait, on est dans la même logique de, il faut que ce soit complémentaire, il faut que ça aille dans le sens dans lequel on veut aller, la façon dont on va vouloir jouer au jeu. Donc il y a quand même cet aspect-là qui est assez creusé dans Evolve, mine de rien.
On peut jouer totalement avec les persos qu'on veut, mais l'exemple le plus frappant, c'est le choix du médic. Nous, en équipe, on joue énormément en équipe. On va encore y jouer tout à l'heure. C'est le choix du médic qui détermine souvent pas mal de trucs. Par exemple, Lazarus, le deuxième médecin, n'a qu'un soin de zone, alors que Val et Kyra, les deux autres médics, l'un, Val a un pistolet qui soigne.
Donc comme le médic de Team Fortress 2.
Exactement le même pistolet. C'est un peu comme une Uber charge. Tu vois, c'est une Uber charge. C'est
quelle originalité!
Voilà, et Kyra par contre elle a un lance-grenade qui fait des AOE de soins qui permet de tirer très très loin le soin, ce qui est assez pratique aussi. Le truc c'est que si on veut jouer par exemple Lazarus n'ayant qu'une AOE de soins et son autre pouvoir étant de pouvoir relever les mecs qui sont par terre ou qui sont morts de manière très rapide, il vaut mieux compenser par exemple avec un perso de soutien comme Hank qui va placer un bouclier, donc t'auras moins de soins à faire. Et tu peux te concentrer, par exemple, si tu dois aller relever un pote, Hank va se mettre en arrière, balancer le bouclier sur Lazarus, et il va pouvoir, parce que, évidemment, quand il y a un mec par terre, le monstre a tendance à s'acharner dessus pour éviter que les potes viennent le relever. Et puis, une fois que t'es mort, c'est 2 minutes pour le respawn, donc ce qui est pas rien.
Ouais, donc il y a vraiment
cette composante de metagame qui est encore à creuser, parce qu'on n'a pas encore toutes les maps, mais si j'ai un reproche à faire vraiment au jeu actuellement, c'est comme Denis pour les pièges, et aussi le manque de modes de jeu en mode évacuation, parce qu'actuellement il y a trois modes de jeu qui sont la chasse, le mode principal, le mode sauvetage, donc il faut sauver des gens qui sont par terre avant que le monstre les bouffe, et le dernier mode, le mode nid, dont Denis a parlé tout à l'heure,
dont on écrase les œufs,
où on doit détruire les œufs et le monstre doit libérer ses minions et ensuite défoncer les chasseurs. Sur la plupart des parties qu'on a fait en évacuation, personne ne prend sauvetage ou presque.
D'accord.
Et le dernier mode, c'est défense, et ça, c'est le mode obligatoire. Défense, c'est pas mal, c'est du tower défense par zone.
Ah.
Tu dois défendre ton générateur, mais au final, j'aurais bien aimé qu'il y ait un autre mode, un ou deux autres modes de jeu, qui rendent ça un peu plus pimenté, un peu plus catchy, même si j'adore le jeu. Hein. Moi, ce que je préfère, c'est la chasse pure.
Ouais.
Mais ça aurait été quand même plus intéressant d'avoir un peu plus de modes de jeu pour le coup.
Alors, quelques réactions sur Twitter de nouveau, on a pris un peu de temps pour en parler. Rouge Noir Blanc qui dit « L'aspect coopération d'Evolve nécessite vraiment un lien vocal car sans, c'est trop complexe à mettre en place. » On le voit bien justement avec l'idée de, comment dire, de sélectionner les bons personnages parmi les bonnes classes pour pouvoir vraiment être efficace. Dark Ubi qui nous dit « Evolve est le digne héritier des Titanfall et autres Destiny. Le manque de contenu fait vite lâcher les joueurs. » Alors. Ça va peut-être changer, on va en reparler dans un instant. Turtle Rock, c'est Talibul qui nous dit ça. Turtle Rock n'ont pas un peu fait exprès de ne pas inclure un mode versus pour l'inclure dans une éventuelle suite. C'est une question qu'ils nous posent. Et puis on nous demandait un peu à côté si le jeu allait être, allait recevoir des améliorations, allait recevoir du contenu en plus. Alors pour faire le tour de ça rapidement.
Pour répondre rapidement sur le destin de Titanfall et de Destiny.
Ouais.
Titanfall a souffert. Je me rappelle un article que tu avais fait, Stoon, sur le tickering à la sortie du jeu.
Alors qu'est-ce que c'est que le tickering, juste pour en deux
mots.
Alors
le tick rate, Stoon va nous l'expliquer s'il est encore là. Parce que c'est son article, non mais.
Effectivement. Le tick rate en fait, ça c'est un concept de moteur de jeu en ligne. Mm-hmm. Et en fait, chaque moteur de jeu qui se joue en ligne, en fait, pour envoyer les informations entre les joueurs et surtout entre le serveur et les clients, il y a une variable qui s'appelle le tick rate et qui est définie. C'est une fréquence, donc c'est en unité par seconde. Et plus le tick rate en fait est haut, plus la simulation qui va être affiché par le client et on va dire proche de la réalité, donc ce qui se passe sur le serveur. Donc ce qui va se passer, par exemple, avec un tick rate très haut sur, je prends par exemple Evolve, si Evolve avait un tick rate très haut, quand par exemple chez moi je joue le monstre, j'appuie sur le bouton saut, l'information part au serveur, le serveur définit que sur la simulation le monstre saute et le renvoie à tous les autres joueurs. Plus le tick rate est haut, plus les joueurs vont voir mon monstre sauter de manière rapide et surtout les positions qu'il a de manière fluide en fait. Mmh. Et le problème de Titanfall, c'est que le tick rate était très bas et du coup
ben console, faut le rappeler.
C'est le fameux personnage qui se téléporte un peu partout pour corriger simplement le fait qu'il n'y ait pas eu d'information et le jeu s'est dit bon il allait tout droit, on va dire qu'il continue d'aller tout droit et en fait le personnage il a pris à gauche.
C'est ce qu'on appelle avoir du lag dans une partie. C'est
exactement.
Ce que les gens confrontent souvent avec le lag dans une partie aussi.
C'est ça, il y a plusieurs explications au lag et le fait d'avoir un tick rate très bas, c'est souvent l'explication majeure parce que pour contrer ça, en fait, il y a des algorithmes en fait qui vont permettre de fluidifier les mouvements des personnages, mais en fait, c'est que de la prédiction. Donc quand tu as un personnage qui court en ligne droite pendant 3 secondes, les 5 6 7 8 9 10 prochaines frames, il y a une grosse chance pour qu'il continue à courir tout droit. Donc on le fait courir tout droit. Mais plus le jeu, ça se voit sur des jeux où les déplacements des personnages sont très rapides. Titanfall, c'était assez rapide quand même. Et du coup, on avait ce système de rollback ou d'effet élastique qu'on traduit en français, où on a un personnage qu'on voit courir et puis qui revient à une position antérieure 10, 15, 20 mètres avant parce que le jeu avait pas l'information en fait.
Qui a coûté aussi beaucoup à Titanfall, parce que nous on y joue encore, on y prend quand même beaucoup de plaisir. Ce qui a beaucoup coûté à Titanfall au niveau du public, c'est les gros problèmes de matchmaking et avec les serveurs Azure Microsoft à la sortie, qui ont duré de nombreux mois, parce que le jeu est sorti en mars et le matchmaking a été vraiment efficace qu'à partir de juillet-août. Et ça, pour un jeu multi, quand ton matchmaking est mort, le jeu il est mort lui-même, parce que ça a une durée de vie assez rapide. C'est court, hein, si au bout d'un mois ou deux les mecs sont pas accrochés, ils s'en vont. Et ça lui a coûté énormément. À côté, Destiny, c'est le manque de contenu, le manque d'équilibrage. J'en ai déjà beaucoup parlé de Destiny, mais c'est encore une autre histoire. Et ça, je dirais plus que c'est de la vacuité et de la cupidité de la part d'Activision, plus que une volonté, pas des malfaçons, c'est juste à un moment ils ont voulu mettre une carotte et la carotte elle est pas passée au niveau du public.
Et puis il faut du contenu pour les 3 ou 4 prochains jeux, donc mon bon monsieur, tout ça ne se fait pas gratuitement.
C'est ça.
Mais pour le coup, toutes ces histoires là, donc on voit un peu les différents défauts du jeu, parfois un manque de contenu, parfois des maps pas forcément super bien prévues, peut-être comment dire, une trop grosse dépendance sur une certaine classe. Est-ce que vous pensez, parce que Turtle Rock a déclaré avoir vraiment l'intérêt de supporter le jeu sur le long terme, au-delà des DLC dont on va parler dans l'autre partie de l'émission, est-ce que vous pensez que Turtle Rock peut être suffisamment derrière le jeu pour pouvoir corriger en profondeur ces soucis-là pour un jeu qui est purement multi, 99% multi dans son intérêt? Est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre à ce point-là les mains dans le cambouis pour corriger la copie?
Alors, moi, je pense que non, pour la simple et bonne raison que la seule raison qui les oblige aujourd'hui à bosser sur Evolve, c'est le contrat qu'ils ont avec 2K. Ils ont une obligation légale de fournir du contenu. On n'a pas les détails du contrat, donc il y a peut-être éventuellement des suites qui sont prises en compte. Mais enfin, pour moi, le problème majeur d'Evolve, c'est le concept de base, en fait. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la promesse de base des développeurs, c'était de fournir en fait des combats. Donc, quand on avait, si on se rappelle tous de Left 4 Dead, le 4 survivants contre un tank. Et en fait, ils sont partis là-dessus, ils ont prototypé là-dessus, et ils se sont dit, bah tiens, on va faire 4 classes différentes, un monstre qui peut avoir des capacités, etc. Et ils ont itéré là-dessus, et en fait, le fait est que ça marche très bien pour moi pendant un laps de temps assez court, mais c'est que ça s'essouffle beaucoup trop rapidement, en fait. On pourrait rajouter 70 maps à Evolve, on en aurait fait le tour tout aussi rapidement, en fait. C'est pas forcément dans le contenu, ni dans les personnages, ni dans les monstres, en fait. C'est le vraiment le cœur du jeu lui-même qui fait qu'il y a... On sent pas cette possibilité du jeu d'accrocher des joueurs pendant un an, deux ans, trois ans, voire même cinq, en fait. Pour moi, c'est ma vision.
Ok, tu penses plutôt que ce serait adressé dans des suites, pour le coup. S'il y a une suite, ils pourraient peut-être revoir leur copie et dire « on peut faire ça un peu mieux ».
Ouais, si suite il y aura maintenant. C'est comme tout. C'est voilà, on n'a pas les retours. Enfin, le peu de retours qu'on a, c'est les ventes retail UK et France, et elles sont pas très belles. Les chiffres de vente, pas les chiffres de vente, mais les chiffres de joueurs sur Steam. J'ai regardé ce matin justement. Il y avait au meilleur hier, il y avait 6000 joueurs connectés. Ce qui est rien du tout. Hein, c'est autant vous le dire. Donc, voilà, c'est maintenant, je sais pas quel deal ils ont, quels objectifs ils ont. Le fait est que ça a coûté pour le coup très cher à tout qui est Evolve.
Fox, tu voulais réagir?
Non, mais je suis assez d'accord avec Stoon sur le suivi, mis à part que bon, déjà ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles maps.
Mm-hmm. Et qu'elles seront gratuites, mais on y reviendra après.
On y reviendra après, mais ils ont annoncé de nouvelles maps, donc là il y en a déjà 12, plus les 4 de défense. Pour le coup, mis à part 2-3, on fait quand même assez vite le tour des maps, même s'il y a quand même pas mal de petits pièges qu'on apprend encore. Nous, on est à quasiment 80 heures de jeu chacun, et on apprend encore des trucs. Hein. C'est apprendre un level design complet, ça prend quand même du temps. Notamment en fonction du mec qui joue avec en face de toi, parce que ça dépend énormément de ça, et c'est ça qui risque de coûter cher à Evolve. C'est qu'à la place de Left 4 Dead, où il suffisait d'avoir 4 mecs pour partir en campagne, même à deux avec des bots, moi je sais qu'avec Zelfir ou Angelus, on en a fait énormément. On faisait du speedrun de Left 4 Dead à deux en expert ou en advance, juste histoire de se tailler une partie pendant 20 minutes, quoi. Mais là, sur Evolve, faire une partie avec des bots, c'est moins fun. Du moins, c'est mon ressenti, hein, c'est un peu moins fun. Et à côté de ça, pour vraiment prendre la mesure du jeu, il faut être une équipe. Et là, les gens en public, beaucoup refusent de... Là, on le voit, il y a beaucoup qui refusent de jouer certains rôles.
Parce que certains rôles, le médic, par exemple.
Par exemple, là, la constante qu'on a, on joue beaucoup à 4, personne veut jouer monstre dans les mecs qu'on prend en pick-up.
Ça veut dire beaucoup de choses.
Non, mais pourtant, moi, j'adore jouer monstre, je préférerais, limite, on va continuer à jouer enfermé, mais derrière, tu vois, il y a des mecs qui refusent de jouer médic. Moi j'ai pété des crises, vous pouvez demander à Zelfir, hein, mais j'ai pété des crises parce que le mec qui jouait médic, il passait son temps à mettre des weak points et à tirer aggro la moitié de la faune de la map au lieu de nous foutre un coup de soin alors qu'on était en train de crever. Des mecs qui jouent pas leur rôle, et pourtant c'est des mecs de level 25, 30, 35, 40. C'est juste que si le rôle leur plaît pas et qu'ils font pas ce qu'ils veulent, ils ont pas envie de jouer coop. Il y a plein de mecs qui jouent cowboy aussi. Le nombre de fois où j'ai ragé parce qu'il y a un asso qui part en mode cowboy à l'autre bout de la map tout seul. Denis le fait très bien, Zelfir le fait très bien, ça, il part en asso de son côté pour nous filer un coup de repérage et moi je pars de l'autre. Mais la plupart des mecs, ils le font pas, quoi. Enfin, ils partent YOLO, roulade Yamato, ils sont par terre au bout de 5 minutes et tout le monde pleure, quoi. La partie, elle est finie, parce que quand tu perds, faut que les gens le comprennent aussi. C'est ça qui déplaît aussi beaucoup aux gens. Mm-hmm. C'est que quand tu perds un gars, t'es vraiment dans la merde.
Ouais. Ça se récupère.
C'est un peu aride. On comprend vite les rudiments du gameplay, on comprend vite comment il y joue. Mais j'ai l'impression, moi, ça ne me déplaît pas parce que c'est un jeu, le concept et l'idée de gameplay me séduisait là-dessus. Mm-hmm. Mais c'est que c'est un jeu qui est un petit peu trop aride pour beaucoup de gens qui vont avoir envie de jouer en casu. Parce qu'il y a un côté performance et un côté progression personnelle et investissement personnel qui est nettement au-dessus de beaucoup de jeux coop.
Et je vois ça aussi avec les gens qui, notamment Flabbergast, qui dit « Ce qui m'a fait arrêter de jouer à Evolve, c'est la progression grinding free-to-play sur un jeu retail et toute la mécanique de finalement de passage de niveau qui est pas du goût de tout le monde, surtout quand on joue un FPS. On va faire une petite pause musicale, on va revenir dans 2 minutes 30 pour parler de l'aspect un peu plus DLC, de l'aspect marketing et de l'aspect à la carte des différentes méthodes d'achat, comment acquérir Evolve et à quel prix. On en parle juste après. Gaël's theme goes with metal, car oui, le thème de Gaël passe aussi en métal. Un mix de Street Fighter 2 par Shinrei. À tout de suite dans le Player Club. Nous sommes toujours dans le Player Club jusqu'à 22h, nous allons parler d'Evolve et nous allons attaquer la partie un petit peu plus le juste prix de cette émission. Zelfir, je vais me retourner un petit peu vers toi pour la première question de cette section. Tout d'abord, au lancement du jeu, on a plusieurs offres. Alors, il y a évidemment le jeu normal sur PC et PlayStation 4, une offre spécifique pour la Xbox One avec notamment un accès à la bêta et le préchargement du jeu, plus des skins de monstres si le jeu était précommandé, la version digitale de luxe, une version digitale de luxe, encore une fois spécifique à la version Xbox One, une version PC Monster Race, une version un season pass à côté, le téléchargement de The Behemoth à côté aussi. Donc le Season Pass ne contient pas tout. et le Monster Expansion Pack qui est offert s'il y a une précommande. Bref, comment dire, on est encore plus confus là-devant que devant un achat d'une version de Windows, ce qui est beaucoup dire. Comment ça se passe? Très franchement, on voit que le truc s'échelonne franchement jusqu'à, je crois que c'est 75 euros pour certaines versions. Enfin, c'est complètement fou. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette façon-là de mettre en vente le jeu?
C'est même au-delà de 75 euros, hein, quand on voit qu'on atteint on dépasse les 80 pour la version maxi. Mm-hmm. Bah, déjà, on va commencer, puisque tu tiens à commencer avec moi, et ben, on va commencer par gueuler. Donc, moi, je trouve ça absolument scandaleux. Mm-hmm. Ça m'a fait faire un bond lorsque j'ai vu un petit peu le planning qui avait été annoncé. Le Kotaku là-dessus avait fait un très bon article en listant aux US les 8 façons de pouvoir acheter le jeu. On est d'accord, c'est le même jeu. Il y avait pourtant 8 façons distinctes de se procurer Evolve avec du contenu différent à chaque fois. Entre les codes de précommande, le code pour le Season Pass, les chasseurs que tu pourras acheter individuellement, et la Monster Race qui est quand même une carotte monstrueuse, parce que c'est, en gros, c'est le Season Pass plus 2 chasseurs exclusifs. On sait pas s'ils seront proposés individuellement par la suite, mais en tout cas, ils ne sont même pas contenus non plus dans le Season Pass. À un moment donné, là, il y a clairement Touquet qui essaye de vendre un jeu et du contenu qui n'est même pas finalisé, sur lequel ils savent pas encore sur quoi ils vont tabler. Mm. En tout cas, ils sont clairement sur un mode de kickstarting de leur futur développement en promettant quelque chose, sans forcément dire quoi, juste une quantité. C'est un peu une espèce de masse de pognon qui essaie de soutirer aux joueurs alors que le jeu n'était même pas encore dans les bacs.
Mais on est dans une situation un petit peu perverse par rapport à ça, et notamment par rapport au contenu téléchargeable, parce que soit le contenu téléchargeable, l'éditeur et même le développeur, c'est déjà de quoi il s'agit au moment où le jeu est mis en vente, et donc au moment où ses offres apparaissent à côté du jeu. Et dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est pas directement inclus avec le jeu?
Voilà.
Et dans l'autre cas de figure, on voit Touquet et Turtle Rock qui vendent un contenu inconnu aujourd'hui, et ils savent pas vraiment dans quelle direction ils vont. Et voilà, ça pousse la logique du DLC et les craintes qui sont autour à un certain degré, voire même à leur paroxysme dans l'état actuel des choses. Juste pour faire le point par rapport à ça, parce que j'ai lancé en l'air le prix de 75 euros de manière un petit peu légère. Là, je me suis rendu donc sur la page Steam d'Evolve. Si on prend Evolve Retail, en plus, il se croit obligé de mettre Retail pour dire, regardez, c'est la version magasin, 50 euros sur Steam. Le Digital Deluxe qui contient donc Evolve et le Season Pass, 65 euros. Et le PC Monster Race, qui est donc la plus grosse offre combinée possible, c'est le jeu plus le Season Pass plus un monstre supplémentaire, 2 chasseurs supplémentaires et 4 skins de monstres supplémentaires pour 80 euros. C'est toujours cette situation vraiment surréaliste où le Season Pass n'achète pas tout le contenu qui sera rajouté par-dessus, sachant que aussi le Steam fait ça très très bien. Il y a un petit truc qui te calcule tout le contenu téléchargeable disponible pour ce jeu, et c'est la roundelette somme de 80 euros et 88 centimes.
Avec le Season Pass, ouais.
Avec le Season Pass. Oui, donc Fox, t'as une réaction à ça? On en est où?
Moi, ma réaction, c'est assez particulier, et c'est un peu mon porte-à-faux. Je suis d'accord avec Zelfir, et je suis d'accord avec ce qu'avait dit Stoon dans son test aussi. Mm-hmm. C'est une grosse carotte. Mais en remettant dans le contexte un peu les choses, je suis remonté un petit peu dans les derniers mois et les dernières années. Je trouve qu'il y a aussi une espèce de procès d'intention sur Evolve, pour le coup, parce que Evolve catalyse et canalise un petit peu toutes les offres qui ont été faites ces dernières années. Je veux dire, le nombre d'offres de vente différentes, vous prenez n'importe quel Assassin's Creed, les collectors, c'est toujours la même chose. Vous n'avez pas tous les DLC si vous prenez l'édition à 150 balles. L'édition collector de Destiny proposait 2 DLC. Le premier est sorti, je me rappelle pas avoir vu le deuxième passer. Et il y a eu une levée de bouclier.
C'est le mois d'avril, il me semble.
C'est le mois d'avril.
Ouais.
Donc c'est le même principe. Sachant que chaque DLC est vendu 20 euros pièce, le premier est sorti avec une levée de bouclier assez monstrueuse de la communauté restante. Je dis bien restante parce que les autres se sont barrés. Mais 20 euros pour du contenu qui était loqué en plus sur le jeu, puisqu'il y a certaines zones qui sont accessibles sur Destiny. Des zones qui ont été relativement fermées, en fait. Elles ont été fermées à la fin du développement, et on a dit bon, on va les mettre en DLC. et des trucs qui sont dans le collector qui sont totalement inutiles. Je pense le grand collector, on a un Dinklebot en plus, une moto en plus et deux trois bricoles.
Dinklebot.
Oui, mais je l'appelle Dinklebot, c'est le robot qui vous accompagne tout le long du jeu. Titanfall, enfin, lui proposait à sa sortie une version collector à $350 avec une statue.
Non, mais...
Et il y avait un season pass, le season pass composait proposait les DLC et rien de plus.
À mon avis.
À côté de ça, juste pour terminer, à côté de ça, il y a beaucoup de jeux genre Battlefield 4 par exemple qui proposent autant de DLC. Et en niveau prix, ça monte aussi haut avec des packs pour des armes, des packs pour des tas de trucs. Et du coup, avoir 60€ de DLC cosmétique, autant il y a une dizaine d'années, je suis tout à fait d'accord, on aurait pu avoir ça directement dans le jeu et les gagner d'une manière ou d'une autre, autant ça reste du cosmétique au même titre que les DLC Street Fighter, et c'est pas un truc qui impacte le gameplay. Et c'est ça qui m'embête, c'est quand il y a un truc qui impacte vraiment, qui touche vraiment au gameplay, genre des missions supplémentaires, des capacités supplémentaires, là ça m'emmerde.
Mais
là,
pour le coup, il y a des monstres supplémentaires et il y a des chasseurs supplémentaires. Et on a...
Pour l'instant, personne n'a. Personne ne les
non,
a.
Mais, pour l'instant,
plus tard.
Mais quand ils sortiront, il y aura un. C'était une question que j'avais prévue pour plus tard, mais je vais la poser maintenant du coup. Est-ce que vous pensez, vu que justement, les monstres ont des capacités différentes entre eux, c'est même ce qui permet de les différencier, pareil pour les différents chasseurs qu'on choisit au cœur des classes, est-ce que vous pensez pas que ça va déséquilibrer le jeu, contrairement justement à ce que dit Turtle Rock en disant les maps sont gratuites, donc ça signifie que la communauté sera sur un pied d'égalité tout le temps. Est-ce que ça, vous pensez que c'est honnête une fois que les DLC sont sortis?
Franchement, moi, je pense vraiment pas, étant donné que pour moi, ils vont vraiment jouer sur le fait que potentiellement, t'as deux amis avec lesquels t'es en train de jouer, eux, ils auront craqué sur le Season Pass, ils vont avoir un chasseur que tu n'as pas, qui va paraître cool, pas forcément qu'il sera plus fort ou non, il va simplement paraître cool parce que eux ils vont y jouer puis ils vont peut-être se marrer. Et derrière ils vont se baser sur regarde, il y a deux amis à toi qui sont en train de jouer avec toi, eux ils se marrent, achètent.
C'est comme
jalousie un petit peu pour le truc de se dire mince, eux ils ont un contenu que j'ai pas là-dessus, je vais avoir envie aussi de le tester. Et
ça,
donc,
après,
potentiellement passer à la caisse, quoi.
Ça, après, pour le coup, c'est le principe même du DLC dans un jeu multi, je veux dire par là, que les gens qui jouent à Mario Kart 8 ont bien compris quand ils ont vu les mascaras colorées et surtout Link ou d'autres personnages comme ça. C'est aussi un facteur pour pouvoir vendre le jeu. C'est justement, la frime, la tentation, regarde, je l'ai, tu ne l'as pas. Ça, c'est très clairement incorporé dans le truc. Stone, tu voulais réagir?
Ouais, je vais rejoindre en fait Fox sur une partie de son analyse. En fait, je suis d'accord avec lui sur les DLC cosmétiques. Personnellement, pardonnez-moi l'expression, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Que des gens mettent 200€ pour avoir une skin dorée, je m'en fiche. Par contre, moi, ce qui me rend vraiment malade sur Evolve, c'est d'une part qu'on puisse pas les tester avant. Même sur CSGO, tu vois, genre, si tu veux acheter une skin, voilà, là, t'as même pas de pré-rendu, donc c'est juste, t'as une toute petite image, et genre, ton monstre, il va être vert, ouais, mais vert comment? Bah, vert, ah, bon, d'accord. Et derrière, c'est les promesses, on sait pas ce qu'on aura, enfin, t'achètes un season pass à 15€ ou 20€, tu sais pas ce que t'auras, c'est, bah, il y aura un monstre, ça c'est sûr, et le reste, écoutez les mecs, on va voir ce qui va se passer. Non, ça marche pas comme ça. Pour moi, c'est inconcevable de manière commerciale. Enfin, jamais tu vas dans un magasin en disant, je vais vous prendre ça, et puis, la pochette surprise à côté. Enfin, c'est inconcevable. Pour moi, c'est honteux. Et je suis d'accord avec Fox, beaucoup d'autres le font, mais c'est tout autant, pour moi, c'est tout autant dommageable pour le joueur et aussi pour l'éditeur. Ils se rendent pas compte, mais au bout d'un moment, si on arrive à en parler maintenant, c'est qu'il y a aussi à un moment un phénomène de ras-le-bol.
C'est un effet, c'est ce que je disais quand je parlais de procès d'intention, c'est vraiment que là, on est arrivé à un ras-le-bol général, de la part des communautés et des joueurs, tout simplement, et même de la presse, sur le fait que c'est bien les mecs, vous nous mettez du season pass, vous nous mettez des trucs, vous finissez pas vos jeux. On préférait avoir, tant pis, vous le repoussez de 3 mois, mais vous nous mettez du contenu. Ça a été le troll de CD Projekt, avec The Witcher, on repousse The Witcher, vous inquiétez pas, tous les DLC sont gratuits.
Vas-y.
Ce que je voulais rajouter, c'est surtout que les développeurs et surtout les éditeurs le savent bien avant. C'est prédécoupé à l'avance. C'est saucissonné à l'avance. Là, typiquement, aujourd'hui, j'ai fait une news sur BF Hardline. Ils savent très bien ce qu'il y aura dans les DLC. Donc, tu vois, c'est aussi une politique. Après, qui propose des nouveaux trucs, ça plaît aux joueurs, etc. C'est, enfin, ça peut être aussi. Enfin, moi, ce qui me dérange pas dans les DLC, c'est ce qu'il y avait dans ceux de BF3, par exemple, où c'était pas forcément les meilleurs modes, mais ça pouvait plaire, tu vois, aux vrais accros du jeu. Mmh. Et les gens qui sont restés dessus, parce que souvent ils sortent en plus un an et demi après la sortie du jeu, bah voilà, ça leur fait un petit peu de rab. Ça dérange personne, mais à partir du moment où c'est de base, tu sais très bien, enfin, ton jeu est pas forcément en odeur de sainteté et derrière on va te dire ah bah ouais, t'auras peut-être des chasseurs, t'auras peut-être des maps, mais bon, en face t'as les 4 Dead, t'as le SDK Valvehammer, tu fais tes maps, enfin tu vois, c'est ça aussi quoi.
Pour ajouter un truc, il y a aussi la carotte du Battlefield Premium.
Ah mais ça c'est une honte aussi.
C'est une honte aussi, c'est la possibilité d'acheter, t'achètes ton leveling. Ah, oui, c'était un truc qui m'inquiétait avant la sortie d'Evolve. C'était parce que comme il y a des persos à débloquer, alors il y en a beaucoup qui trouvent que c'est du grind. Après, très honnêtement, si tu joues ton rôle en 4 ou 5 parties, tu débloques chaque classe, quoi. Ça va assez vite, hein. Il te faut 3 parties à peu près pour débloquer un perso. Au pire, tu te mets avec des bots et tu farmes ça en même pas un quart d'heure, tu débloques ton perso. Ça se fait assez vite. Après, le but aussi est d'apprendre à jouer chaque classe pour comprendre un petit peu les synergies et les évolutions. Parce que si on te donne tout dès le départ, je pense que le jeu aurait peut-être encore été moins bien perçu si on avait tout eu dès le départ. Parce que te mettre tout dans la bouche, pour un jeu comme Evolve qui requiert un minimum d'apprentissage et de compréhension du rôle, quand tu vois que les maîtres qui sont à haut niveau comprennent pas toujours, je pense que ça aurait été encore plus dommageable.
Petit truc par rapport à tout ça quand même, j'ai trouvé la mise en contexte par rapport à 2K et le fait que 2K n'est pas énormément de jeux, ne sort pas énormément de jeux super intéressants, parce que ce que me donne l'impression que me donne toute cette histoire au final, c'est simplement que bah voilà, 2K a voulu rentabiliser Evolve, ça c'est assez logique, et ils ont voulu utiliser tous les coups imaginables, et à part un mode premium dont on vient de parler, la Battlefield, à part ça, ils ont vraiment compilé toutes les méthodes possibles, c'est-à-dire les DLC cosmétiques, le season pass, les achats à côté, les différentes offres, le collector, etc., etc. Donc on sent vraiment pour le coup Tokyo avoir poussé la logique jusqu'au bout, et ça me fait poser cette question là. D'accord, ils font ça, et d'accord, la logique peut se défendre d'une manière ou d'une autre parce que les budgets sont quand même énormes, et de l'autre côté les éditeurs demandent une bonne marge derrière pour pouvoir continuer à faire tourner la boutique, surtout quand c'est un éditeur comme Tokyo qui n'a que un BioShock tous les 3-4 ans, ou un GTA toutes les 4 ou 5 pour se consoler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait, est-ce que Tuki n'aurait pas mieux fait pour le coup de fixer le prix du jeu de base plus bas? Est-ce que ça n'aurait pas été malin? Ça n'aurait pas justement peut-être permis au jeu de trouver un plus grand, un plus large public? Parce que 50€ pour un jeu justement qui est autant extensible à l'achat de DLC.
Le jeu est à 50€ sur Steam. Après, si tu
et c'est le prix conseillé de manière générale.
C'est le prix conseillé de manière générale. Sur PC, le jeu est vendu 50€ sur Steam. Mm-hmm. Tu peux l'acheter chez d'autres revendeurs. Je pense que tu vas le trouver à Carrefour, à Auchan, à Amazon. Amazon, par exemple, il est à 35€.
Mais c'est eux qui ont fait cette décision-là en regardant un peu le marché aussi, j'imagine.
Évidemment. Et puis Amazon achète, enfin, les grandes distributions, que ce soit Carrefour, Auchan, Amazon, on donne les trois, comme ça tout le monde est content. Mais prends l'exemple d'Amazon. Amazon achète des quantités, ils le vendent 35€. Moi, j'avais préco mon jeu à l'époque sur Amazon en juillet. Donc 10 juillet, date de mise en préco, je l'ai préco à 39,99€, et puis après le prix a baissé à 35,99€, j'avais ma préco avec le deuxième casque de chasseur, et finalement sous l'impulsion des copains, parce que le jeu après l'alpha et la bêta m'avait vraiment hypé, je me suis dit je vais me prendre une Monster Race, comme ça je pourrais voir les persos un peu plus tard. Et pour le coup, voilà, le jeu me plaît, je sais que je vais encore y retourner plusieurs fois et que ça va rester un des jeux auxquels on va jouer pendant plusieurs mois. Même si on n'y joue pas autant que Left 4 Dead où on y jouait tous les jours pendant un an, je vais avoir envie d'y retourner. Donc je me suis pris une Monster Race et je l'ai trouvé chez un vendeur dématérialisé, tout à fait légal hein, bien sûr, qui est un vendeur anglais. Je l'ai trouvé avec une réduction avant la sortie du jeu à -20, -25%, et j'ai eu le jeu en Monster Race pour 59€.
Reste que
plus que qu'Amazon au final.
C'est vrai que t'as pu le trouver de cette façon-là. Reste que la politique de prix de Tuquet était peut-être un peu risquée à la base. Et c'est peut-être pour ça justement que les revendeurs l'ont ajusté, comment dire, à une certaine idée de la réalité.
Je reprends juste le tweet de Chitounet tout à l'heure qui disait, pour résumer Fox, Evolve c'est abusé, mais vu que les autres font du caca aussi, ça va, ce caca ne pue pas moins. Je suis tout à fait d'accord, parce que quand j'exprimais le fait que...
non
mais il a tout à fait raison, parce que
le jeu vidéo en 2015
ce que je disais était très cynique, et j'assumais totalement le cynisme de mes propos, et que tout le monde fait pareil, donc pourquoi Touquet ne s'en cacherait pas et s'empêcherait de le faire? Pour la simple et bonne raison que malheureusement il y a des joueurs plus ou moins éclairés qui en ont ras le cul des DLC. Il y a des sites comme GK, comme d'autres, qui disent, bon, il y a un moment c'est abusé, ça suffit, mais ça n'empêche pas une grande majorité de joueurs de consommer ce DLC, je pense à Call of Duty, à Battlefield ou au reste. Moi le premier, j'ai acheté la Monster Race, j'avais envie de me faire plaisir, c'est le seul jeu que je vais acheter avant un moment, parce qu'après il y a Mortal Kombat en avril, donc ça va, j'ai le temps.
Ouh là là.
Ouais, mais j'ai le temps, tu vois, et encore Mortal Kombat, tu vois, on pourrait parler de ça, il y a 3 ou 4 éditions différentes aussi, avec des trucs différents aussi. Mais oui, c'est pas bon, c'est pas une méthode qu'on devrait appliquer dans une relation avec les joueurs, parce que ça va leur jouer des tours sur la durée. Mais il y a quand même des gens qui finissent par céder, et il y en a suffisamment qui achètent et qui cèdent pour que la pratique continue. Et ça, le problème, c'est extrêmement cynique et c'est extrêmement sombre.
Il y a suffisamment de fans d'une telle ou telle licence ou de tel ou tel concept pour pouvoir suivre. C'est ça le problème.
C'est ça. C'est tout à fait ça. Call of Duty aurait arrêté. Là, ils ont arrêté la formule premium, mais la premium à 100 balles l'année, les mecs, ils se sont fait des patates en or. Hein.
Parce que pour le coup,
des couilles en or, quoi.
Il faut comprendre que la plupart justement des hardcore fans de telle ou telle licence, par exemple de Battlefield, ne vont probablement acheter que du Battlefield ou un ou deux jeux à côté dans l'année, mais pas non plus énormément de choses autour.
Après,
donc forcément, il leur reste plus d'argent pour consommer sur du Battlefield. On dit à ces gens-là, les enfants, en plus du jeu, il y a d'autres trucs Battlefield à côté. Je prends, donnez-moi, fermez vos gueules et prenez mon argent. Enfin,
il y a un truc très bête aussi. Tu parlais des hardcore fans, mais on va parler en vitesse des DLC. Rappelle-toi l'émission qu'on avait fait sur Street Fighter Cross Tekken avec SNK à l'époque.
Ouh là là.
Où on avait un peu défoncé la politique de Capcom.
Bien sûr.
Street Fighter, par exemple, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Street Fighter, soit sur Xbox ou sur PC. Quand tu joues avec le même perso pendant longtemps, au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, bon, j'en ai un peu marre du skin de merde de mon dictator, machin.
J'aimerais bien mettre autre chose.
Il y a un pack. Il y a un pack, il est à combien? Oh, il est un peu cher. Oh, allez, vas-y. De toute façon, je vais encore jouer 200 heures avec. Et du coup, tu vois, cet achat impulsif, il va partir, il va donner raison à l'éditeur. Et malheureusement, on est tous comme ça. On a tous acheté au bout d'un moment un petit DLC, un petit truc, et on s'est fait enfler, ok. Mais on est content parce qu'on a le costume de dictator qui est sympathique, on a son Sagat avec des cheveux roux, enfin.
Ouais.
Vous voyez, c'est ce genre de choses.
Pour moi, c'est des habitudes. Enfin, je te coupe, excuse-moi, mais c'est des habitudes de consommation en fait que les gens ont pris. C'est clair et net. Hein. Enfin, comme tu dis, le BF annuel, les gens vont en acheter qu'un et ils vont jouer qu'à ça toute l'année. Maintenant, le problème, enfin, pour en revenir à Evolve, c'est que d'une part, c'est une nouvelle licence. Donc, le modèle a beau déjà exister, ça reste une nouvelle licence. Enfin, BF, ça fait depuis longtemps que ça existe. Call of Duty aussi, tu vois. Donc, pour beaucoup de gens, c'est le mois de, enfin, en automne, ça va être mon FIFA plus. Les DLC, les maillots, etc. que je vais pouvoir acheter dedans, ou mon code ou mon BF. Evolve, là, c'était un premier jet. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il faut prendre en compte, ce qu'a essayé Touquet. Ils ont essayé, tu vois, ils ont pris leur jeu, ils ont essayé d'y intégrer tout ce qui se faisait, et ils vont voir un peu les retours qu'ils ont derrière. Là, ils se prennent un bon gros retour d'élastique, quoi, dans la tronche. Et je pense que, ils ont des personnes très compétentes qui maîtrisent très bien Excel et qui doivent scruter toutes les ventes mondiales et leur faire des reports. Mais je pense que c'était ça aussi, tu vois. Enfin, ce que je disais, ils ont pas leur gros FPS multi, entre guillemets, compétitif, qui sort tous les ans. Ils tentent un truc. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et, je pense que les réponses, on les aura si Evolve 2 sortira, s'il y aura un deuxième épisode un jour, ça nous donnera tort ou raison, tu vois, mais. Voilà, ils ont essayé, et nous maintenant aussi de leur dire, attention les gars, c'est un peu craqué quand même votre histoire.
On arrive au bout de l'émission, je vais juste vous poser une dernière question, et vraiment la réponse doit être par oui ou par non, parce qu'après on va s'en aller dans l'abîme incroyable de la fin d'émission, parce qu'elle fait 60 minutes. C'est Thomas Zerus qui posait la question. Question pour le club, le fait qu'Evolve ne soit pas arcade comme Left 4 Dead dans la prise en main, n'est-il pas un défaut, oui ou non? Et on va terminer l'émission là-dessus. Fox, oui ou non?
Non.
Non, d'accord. Stoon?
Non.
Et Zelfir?
Non.
Eh ben lui répondait oui, voilà. Eh ben écoutez, vous avez votre opinion confrontée à celle de Nathan. Merci vous trois d'être venus pour ce Player Club consacré donc à Evolve. On rappelle, Fox, on te retrouve sur artofgaming.fr et dans l'étolier.
C'est ça, merci.
Zelfir, on te retrouve aussi sur artofgaming.fr.
Tout à fait.
Et Stoon, on te lit sur Gamekult.
C'est ça.
Et on te suit sur Twitter, @Stoon_GD. Laissez-moi vous dire, enfin, pour terminer cette émission, que le Player Club, c'est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain en direct chez nos partenaires de la radio Synops Live. Merci d'ailleurs à vous tous d'avoir été aussi nombreux à réagir en direct. Et puis, rendez-vous 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV, radiojv.com. Je passe l'antenne à mes amis de Pass le Stick. Pass le Stick, bonsoir à vous.
Salut, Inc, c'est la fête.
Bonsoir. Oui. Oh, ça a l'air. Oh là là.
Mais en fait, on va
ça manque de cochonailles.
Ça manque de cochonailles et on va démarrer dorénavant chaque Pass le Stick avec une preview de ce qu'on va diffuser à la pause musicale la semaine suivante.
C'est exceptionnel.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu vas nous diffuser la semaine prochaine?
Alors, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle Tout attaché, bienvenue dans notre casto d'Angoulême.
Voilà, donc c'est un lip dub, hein. On est en 2015, tout va bien, on fait encore des lip dubs et c'est bien sympa et c'est pour ça qu'on est de bonne humeur dans Pass le Stick.
À part de lip dub, vous allez parler de quoi ce soir?
Eh bien, on aura le test de The Order et puis on discutera de. Et étrangement.
Très bon point and click, il paraît.
Exact. Et étrangement, on parlera de la durée de vie dans les jeux. Oh bah.
Oh bah, quelle surprise, tiens.
C'est bizarre.
Bonne émission à vous.